Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Sortie de zone, la balado de l'équipe des sports du 98.5 et de la presse. Avec nous aujourd'hui, Simon-Olivier Lorange. Bonjour Simon-Olivier.
Salut Mario.
Guillaume Lefrançois, salut Guillaume.
Salut Mario.
Et Jérémy Filosa, bonjour Jérémy.
Salut les gars.
Ici Mario Langlois, donc bienvenue à cette discussion au lendemain du point de presse de Marc Bergevin, au lendemain de l'heure date limite des transactions. Les gars, je sais pas comment vous voyez ça, mais sur ce que Marc Bergevin avait à faire, grosso modo, sur ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire de liquider quelques gars en retour de choix. Bon, mission accomplie, si c'est à ça qu'on s'attendait, ou je suis sûr que vous allez développer dans d'autres sens, mais il semble que l'exercice de communication n'a pas eu le même effet que de troquer des joueurs pour des choix, parce que je regarde les manchettes d'aujourd'hui, je regardais tous les collègues, divers médias confondus. Il semble que ce que Marc Bergevin tente de façon parfois pas toujours claire d'expliquer ne passe plus. Est-ce que je me trompe? Et j'ai hâte de vous entendre là-dessus.
Non, je pense que tu te trompes pas du tout. Le message a été très mal livré parce que puis là aujourd'hui Marc Bergevin se fait beaucoup critiquer. Pourtant il y avait pas seulement que du négatif à livrer. Il y avait des choses qui auraient pu être présentées que s'il avait été simplement mieux présenté, mieux expliqué. Je pense que c'est des choses qui il y a des choses là-dedans qui se défendent bien, pas toutes. Je pense que échanger Matthew Pekka contre un choix de septième tour et un joueur d'ECHL, ça je vois mal comment tu peux le défendre, même en l'expliquant comme il faut. Mais il y avait d'autres choses quand même qui étaient correctes, notamment le cas d'Ilya Kovalchuk. On peut avoir notre opinion à savoir si est-ce qu'il aurait dû prendre un choix de deuxième tour conditionnel plutôt qu'un choix de troisième. Chacun a son opinion là-dessus, mais la décision qu'a prise le Canadien de ménager ses relations avec Kovalchuk, on le devine dans le but d'essayer de l'attirer l'été prochain, ben ça se défend puis ça s'explique. Pas tout le monde sera d'accord, mais je crois qu'il y a moyen de l'expliquer mieux que ce qui a été fait hier.
Ça va avoir l'air d'une drôle de remarque parce que je suis un ardent partisan de la transparence, qu'on n'a pas tout le temps droit avec le Canadien, mais je pense que Marc Bergevin s'en serait mieux sorti en nous parlant pas hier. C'était incroyable parce que de la vie générale, la journée qu'il y avait était pas une excellente journée, mais était pas une mauvaise journée non plus. Tu sais, le retour qu'il y a eu pour Thompson, pour Cousins, même pour Kovalchuk, c'est à peu près ce qu'on attendait.
Oui,
Kovalchuk, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu espérer davantage, mais je pense que la plupart des observateurs s'accommodaient assez bien de ce fameux choix de troisième tour gratuit, puisque Kovalchuk avait rien coûté. Mais quand Bergevin s'est adressé aux journalistes, il nous a envoyé 40 minutes de pure confusion au cours desquelles il s'est contredit plus d'une fois et au terme desquelles on comprenait pas vraiment où il s'en allait et quel était finalement, est-ce qu'on est pro-repêchage, anti-repêchage, est-ce que le repêchage c'est un coup de chance, est-ce que c'est une expertise, tout ça, est-ce qu'on peut faire des échanges, on comprenait plus trop finalement qu'est-ce que Bergevin pouvait et où voulait faire. Fait que c'était assez particulier.
Ouais, surtout sur le repêchage, parce que il commence en disant, au tout début, les bonnes équipes ont été bâties via le repêchage. Et là, il dit quelques minutes plus tard seulement, ben, si t'es pas dans le top 25, tes chances de jouer dans la Ligue nationale sont pas très bonnes, donc j'échangerai pas mes joueurs maintenant pour aller chercher des choix que je sais pas s'ils vont jouer dans la Ligue. Et que là, tu te dis, OK, c'est un ou c'est l'autre. Ceci dit, moi, je suis d'accord avec le fait qu'ils soient pas départis de certains de ces joueurs-là dont on faisait mention là, lorsque la question a été posée. Mais là, tu te dis, OK, sur quel pied on danse? Puis Marc Bergevin nous dit souvent, il y a plein de choses que je peux pas vous dire, puis ça, c'est la chose la plus frustrante. OK, oui, mais là, quand t'essayes de l'expliquer en nous donnant pas ces détails-là, ben on est confus.
Vas-y pas à moitié. T'sais. Mais c'est drôle ce que tu viens de dire. Là, je repense. Puis tu sais, je me suis amusé avec cette clip-là de l'entrevue qu'il m'a donnée au début de l'année, où je lui disais en début d'entrevue, tu sais, dans le fond, là, tu répondras pas vraiment à mes questions, puis t'aimerais-tu ça? Et donc, la clip avec laquelle je me suis amusé, c'est dit, oui, ben j'aimerais s'en dire plus, mais des fois, je peux pas pour telle ou telle raison, fait que tu patines autour, etc. Ben, fait que chaque exercice, c'est ça depuis plusieurs années. Fait que c'est sûr que ça crée une usure, là, parce que c'est pas tellement différent de bien d'autres exercices, peu importe les circonstances de ce point de presse-là hier, en tout cas, à mon humble avis.
Ben, tu sais, la seule chose avec cette partie-là où il dit « je peux pas tout dire », c'est vrai. Mais c'est vrai pour tous les DG.
Oui.
Puis la semaine dernière, j'étais à Washington, puis c'était au lendemain de l'acquisition de Brandon Dillon par les Capitals, et Brian McLellan, le DG, donnait un point de presse. Et lui non plus, il peut pas tout dire. Mais ce qu'il a dit, ben c'était clair, c'était bien livré. Puis, regarde, est-ce que ça veut dire que McLellan est un meilleur DG que Marc Bergevin? Ça veut rien dire. C'est simplement un exercice de communication. Mais disons que lui est capable de faire passer, d'expliquer son message sans trop de confusion. Donc, ça va, c'est correct, c'est droit au but. Et puis, ben c'est sûr que l'aspect communication, ça fait partie ensuite de ça, de Comment ton travail?
Juste pour comparer les
Il y avait quand même pas mal de monde. C'est étonnant, mais à Washington, c'est tout le temps des vestiaires quand même très très suivis. Puis c'est pas comme dans certaines équipes là, comme à Détroit où est-ce que tout le monde porte un logo de l'équipe parce que parce que tout le monde travaille pour l'équipe. Ben ouais. Mais vraiment, les médias locaux à Washington là, couvrent beaucoup les activités des Capitals. Là. C'est sûr que c'est une bonne équipe. T'as Ovechkin qui est là en plus. Donc, je te dirais qu'on était une bonne facilement une quinzaine là, autour de lui. Là.
Moi, j'étais en studio hier pour animer la spéciale qu'on s'était à laquelle on avait donné rendez-vous à tout le monde là sur le web, un spécial transaction. Fait que j'étais pas à sa conférence de presse. Tu y étais, toi aussi, Simon Olivier. J'ai entendu vos questions et je regardais des photos ce matin là d'articles qui couvraient l'événement. Marc Bergevin avait l'air d'un gars vraiment fatigué. Vous étiez sur place là, les photos en témoignent. Puis je présume que on a une petite idée de son horaire là, Colorado, Washington, etc. Il n'a pas accumulé ben des heures de sommeil, probablement plus de minutes sur son cellulaire, mais le sentiez-vous sur place? Même à la fin, il l'a dit, là, j'ai mal au dos, genre, on sentait cette fatigue-là.
Marc Bergevin, hier, c'était un gars brûlé. Complètement, il était lessivé. On s'en parlait avant de commencer le podcast. Puis comme tu le dis, on peut pas l'en blâmer dans la mesure où c'est
on devine un peu, là.
Pour des raisons évidentes. Mais dans le fond, c'était une drôle de circonstance pour expliquer aux gens. Le point de presse devait avoir lieu à 15h45, ce qui était puisque la date, l'heure limite est à 15h, mais ça a dû être repoussé parce que l'échange de Nick Cousins
n'était pas validé encore.
Puis c'est toujours ce qui arrive chaque année. Il y a des échanges qui sont annoncés à peu près pendant une heure et quart, suivant l'heure limite. Donc, tout le monde attendait dans la salle de conférence. Bergevin a fini par se présenter, je pense, vers 16h15 peut-être. Et déjà, il y avait des traits tirés, on sentait qu'il était épuisé. Il faut le donner aux Canadiens et à Bergevin, il a répondu à toutes les questions. Puis il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas eu de relationniste qui tirait à plug. Même tous les journalistes
on sentait
pour poser deux, trois, quatre
questions. Relances.
Oui. C'est pas, c'était le, tu sais, on a été quand même gâtés là-dessus, mais Bergevin, à la fin des 40 minutes, et c'est vraiment, il était brûlé. Fait que, est-ce qu'il aurait dû lui-même attendre un peu plus avant de nous parler? Est-ce qu'il aurait dû être mieux préparé? Je sais pas, mais en tout cas, il a pas donné le meilleur de lui-même. Mais,
en même temps,
la dernière fois que j'ai senti que c'était clair où voulait s'en aller le Canadien, ça doit faire au moins 5 ans. Quand Bergevin est arrivé, j'ai trouvé que les 2-3 premières années, c'était pas mal cohérent où il voulait s'en aller et les décisions qu'il prenait, c'était conséquent avec ce qu'il disait. Mais je vous dirais que ça fait à peu près 5 ans que si tu me demandes c'est quoi le plan de match, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la fenêtre d'opportunité, quand est-ce qu'on veut essayer de gagner, je ne sais pas. Puis je pense que le Canadien non plus, je ne sais pas si je me trompe, mais s'ils le savent, ils le communiquent mal parce que on a de la misère à suivre, là.
Ben, tous vos points là suscitent beaucoup de réactions, mais j'essaie d'y aller de façon là avançant. Je veux revenir sur ce que tu dis là tout à l'heure. Permettez-moi les gars, juste pour avoir un peu le ton du marché, j'ai recensé là, quelques manchettes ce matin de sites internet et de journaux, sites web qui couvrent les activités du Canadien. Question de voir un petit peu comment s'est perçu l'exercice de communication de Marc Bergevin hier, qui est aussi un exercice de relations publiques. Quand t'es le visage d'une organisation, ça compte comment ton message est perçu. Alors, Sportsnet, c'était le texte d'Angel, je pense. Canadians failed to give fans clarity after confusing trade deadline. Athletic.com, Marc-Antoine Godin, à force de souffler le chaud et le froid, Marc Bergevin a cessé d'avancer. J'ai oublié de relever quel média l'avait diffusé, vous allez peut-être le reconnaître. Du bout des lèvres, Bergevin n'ose pas dire qu'il a jeté l'éponge sur la présente saison.
C'est le Journal de Montréal.
Journal de Montréal, merci. Journal de Montréal également. Ah, c'est ça, je l'avais doublé deux fois. Marc, deux fois dans Journal également, ça tourne en rond encore et encore. Journal également, Théodore Bergevin se contente de peu. La presse, Alexandre Pratt, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Faut lire le texte pour comprendre ce qu'Alexandre veut dire, mais tu veux dire des choix qu'on sait pas ce qu'ils vont donner, ça ne le rassure pas. Si je résume sommairement, ajoutez des choses, les gars, à mesure, si vous voulez, là.
Je pense que ça correspond bien justement à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que comme exercice de communication, ça a pas été réussi. Je pense que c'est toute cette enfilade de titres là le prouve bien. Puis effectivement, je veux dire, c'est très dur à défendre. Ensuite de ça, nous, quand on analyse tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a entendu, c'est un peu dur à défendre, même si, comme je disais, il y a pas que que du mal dans ce que l'équipe
non,
a fait.
Non, et je vais y arriver tout à l'heure. Mathias Brunet, la recette, point d'interrogation, mais quelle est-elle? Et Mathias juxtapose ce qui se passe à Ottawa et à Montréal et compare. Qu'est-ce qui va donner le résultat? Oui,
mais quand tu parlais tantôt d'exercice de communication, on a parlé de avant le point de presse, pardon, de après le point de presse. Quand les gens ferment leur télé, ben nous, on se met au travail. C'est-à-dire les journalistes de la presse écrite, on commence à écrire nos textes pour le web ou pour le journal du lendemain. Mm-hmm. Les gens de la télé s'installent pour faire leur direct. Et hier, ça a donné le phénomène qu'on est tous sortis du point de presse un peu sans voix. Et là, on en jasait avec les collègues des autres médias, les gars du Journal de Montréal, François Gagnon de RDS, tout ça, Stu Cowan de la Gazette, et personne ne savait trop dire qu'est-ce qu'on vient d'entendre pendant 40 minutes. Tout le monde était extrêmement confus et c'était vraiment un petit détail, mais le point de presse a fini environ à 17h et les textes sont sortis tard. Les textes sur le web, justement, Eric Angel, c'était autour de 9h30. Nous, on a publié, il était quasiment 10h le soir. Tout le monde...
Ça témoigne vraiment, d'une certaine hésitation.
C'est vraiment ça. On comprenait pas trop quoi faire avec toute cette matière-là, ce qui est pas si commun que ça.
On dit publiquement qu'on n'abandonne pas, mais il y a eu aucune acquisition. Tu sais, d'un côté, tu laisses partir certains joueurs de profondeur, puis c'est correct parce que de toute façon, tu vas commencer à faire jouer des joueurs plus jeunes qui vont prendre un petit peu plus de responsabilité. Mais tu perds un gars comme Kovalchuk qui, oui, a ralenti récemment, mais qui a été ton étincelle. Curieusement, t'es à 6 points d'une place en série. T'as jamais été aussi proche depuis quoi? La mi-janvier, à peu près, là.
Ils ont fait des hauts et des bas, mais
à 6 points, puis avec la tendance des Leafs et des Panthers.
C'est plus proche qu'ils ont jamais été.
T'as raison.
Fait que là, tu dis, OK, puis là, Julien dit, ben là, on n'abandonne pas, on a encore des chances, mais...
En fait, c'est drôle, parce que s'il y a un moment où Bergevin était clair, par contre, c'est à la toute fin, quand il expliquait, c'est Chaumont du Journal de Montréal qui lui demandait si, les problèmes des Panthers et des Maple Leafs avaient changé sa stratégie. Et là, il était très clair en expliquant finalement le mécanisme du classement et qu'est-ce qui fait en sorte que, même si ça va pas trop mal pour le Canadien, il y a pas d'avancée au classement parce qu'il court après deux, trois, quatre équipes, il suffit qu'une de ces équipes-là gagne pour faire du surplace. Puis ça, il l'a très bien expliqué, puis ça nous aidait...
Oups. On voulait mettre fin au podcast.
C'est correct, ça arrive.
On bouge pas d'ici.
Je complète l'exercice des titres. Il y en a d'autres, RDS, François Gagnon, puis il y en a qui ont produit beaucoup de textes. J'imagine, ça entraîne appétit pour des lecteurs, etc. Oh,
François, là, il est insatiable.
Il y a deux titres. Aucun sentiment d'urgence dans un premier texte. Et ensuite de ça, repêchage de CH implore encore votre patience. Philippe Quentin, c'était sur le 98.5, donc issu d'une déclaration en ondes, un collègue de la presse également. Marc Bergevin devient prisonnier de son plan. Danny Dubé, Bergevin veut rester au cœur de la compétition. Stu Cowan dans The Gazette. Ceux que j'ai pas mentionné parce que t'as pas de l'opinion. Ce qui était pas de l'opinion, les faits, le factuel, j'ai laissé ça. Stu Cowan, after the trade deadline, there's nothing for Canadian fans to get excited about. Bon, ce long préambule-là, OK? Ce long préambule-là, là, j'arrive où je voulais nous amener dans la discussion. On sort la machine. Non, mais pas vrai. Vous vous attendiez à quoi hier? Je veux dire, je regarde les réactions un peu enflammées, la virulence des commentaires de tous. On est d'accord pour dire que c'est pas un grand exercice de communication, là. Tu sais, c'est vrai que, à force de dire des choses à moitié, de pas y dire, puis de avec le franglais ou le mélange, tu sais, ça devient, oui, j'avoue que c'est pas un 10 sur 10. Mais, je veux dire, quelles étaient vos attentes au début de l'année? Et quelles étaient vos attentes hier, puis expliquez-moi un peu, parce que je ne comprends pas le désarroi tout à coup qui anime le marché, autre que par le fait que on dirait qu'on sent un besoin de répondre à une colère des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs, puis lui montrer que finalement on n'est pas à botte du Canadien, fait qu'il faut varger dans le tas un peu. je relance la discussion en disant
la
ça.
Date limite, là, c'est une date qui... C'est comme le 1er juillet, c'est une date qui donne espoir ou qu'on espère va nous donner espoir. Et quand il se passe pas quelque chose d'éclatant, les gens sont déçus. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Mais moi, si tu me poses la question, il y a 24 heures, je m'attendais à quoi de Marc Bergevin dans son discours? Je m'attendais pas mal à ce que j'ai entendu, là.
OK.
C'est ça qu'on a depuis déjà quelques années.
Donc, ton indice d'amertume ou de colère, de frustration est-tu plus grand aujourd'hui qu'avant hier, mettons, par rapport aux Canadiens?
Je suis rendu plus loin que ça. J'ai comme, tu sais, je suis rendu à une certaine indifférence qui dure depuis déjà quelques années. J'attends un déclic, j'attends quelque chose. Puis je te dirais que le Kovalchuk m'a donné le fun que j'ai pas eu dans les dernières années. Puis je trouve que c'est l'affaire, le fun, là, on l'oublie souvent dans l'équation. Mm-hmm. Et si t'as pas ça, là, tu tombes dans une certaine...
Ben c'est, t'as dit le mot-clé, indifférence. Puis ça, indifférence. C'est, ça, c'est le mot, je pense, que l'organisation veut éviter à tout prix.
Ben oui, si mais... on est loin de l'indifférence. Là. Il y a de la colère, de l'amertume, de la frustration, mais le monde du « je les bloque » ou « j'arrête de les suivre », je sais pas s'ils font vraiment. Là, ils vont se remettre à gagner, mettons, je sais pas dans combien d'années ou dans combien de mois, mais je vous laisse enchaîner, les gars.
Moi, il y a quelque chose qui, par rapport à Marc Bergevin, et ça depuis quand même assez longtemps, qui me frappe. Mon Dieu, que ça a l'air difficile d'être directeur général. Je trouve que Marc Bergevin, souvent, a l'air extrêmement impuissant puis quasiment fataliste devant ce qui lui arrive. Fait que là, si on regarde, tu sais, si on revient à ta question de tantôt, sa journée d'hier, ben, à quoi on s'attendait? On s'attendait tous un peu à ça, mais c'est après ça, son discours très ambigu sur, on reconstruit par le repêchage, mais le repêchage, finalement, si on n'a pas des choix très élevés, c'est on n'a pas des grosses chances. Fait que là, il y a ça sur le repêchage. Là, après ça, il dit, je crois en mon noyau, mais son noyau, il gagne pas. Après ça, plus tôt cette année, il a dit, ben là, je veux pas échanger mes jeunes. Fait que là, s'il veut garder son noyau, s'il veut pas échanger ses jeunes, si la reconstruction par le repêchage, c'est pas facile, il a ajouté que les agents libres, c'était très mince. Ouais. C'est ça son expression, c'est très mince. Et là, les échanges, ben c'est pas évident, mais c'est plus facile en arrivant dans le coin du repêchage. Qu'est-ce qu'il peut faire finalement? Puis c'est un peu ça, je trouve, ce qui laissait tout le monde un peu pantois de dire, comment ça se fait que toutes les autres équipes, avec ou sans succès, gère leur équipe et que Bergevin, ça a l'air d'une sinécure, c'est complètement, ça a l'air de l'enfer être directeur général et finalement, il n'y a rien qu'il peut faire puis il attend que ça marche parce que sinon, on ne sait pas trop. C'est un peu ça, je pense qu'il laissait tout le monde perplexe.
C'est bon comme son cloche, Guillaume.
Il y a un aspect très, très passif là-dedans puis ça, c'est pour son travail. Puis ensuite de ça, ses fameux propos sur le repêchage, ça plaçait son équipe de recruteurs dans ce même genre de position-là. C'est pas facile le recrutement, tout ça. Puis j'ai trouvé ça très malhabile parce que si je fais partie de l'équipe de recruteurs du Canadien puis que j'entends Marc Bergevin dire ça, tu dis comme c'est quoi la valorisation de notre travail là? Je veux dire, est-ce que c'est à ce point-là, dans le fond, c'est quoi?
C'est vraiment juste
du volume puis moi j'ai trouvé que c'était un peu malhabile pour autant pour les recruteurs du Canadien que pour les recruteurs dans la vie en général. Je trouvais que ça jetait de l'ombre un peu sur ce travail-là qui est très, très, très important. Puis on peut en nommer des exemples autour de la Ligue, d'équipes qui ont réussi à trouver des joueurs là, au-delà du top 15.
Moi, je répète toujours, puis je trouve que le Canadien devrait se servir de la date limite des transactions pour faire des acquisitions. Être acheteur pratiquement à toutes les années, pas toujours pour la saison qui est en cours, parce que des fois, t'es pas dans le coup, mais pour les années suivantes. Tu sais, je vais reprendre l'exemple de Vincent Trocheck qui a été échangé. Je pense que le Canadien devrait viser des joueurs qui ont une certaine établie dans la Ligue nationale, qui ont des contrats pour plus d'une saison, qui peut-être les organisations veulent les laisser partir. Marc Bergevin avait quand même des cartes dans ses mains, c'est-à-dire de la place sous le plafond salarial, de l'argent,
des choix,
des jeunes, des choix. T'as quelque chose, là. C'est pas comme si tu disais, hey, on est prêt à gorge, on peut pas bouger, on n'a pas de marge de manœuvre. T'as des éléments avec lesquels négocier pour peut-être mettre la main sur des joueurs que tu pourras pas aller chercher le 1er juillet parce que tu sais que le 1er juillet, quand ils ont 30 autres équipes, sur lesquelles.
Est-ce que tu t'inspires d'une transaction en particulier pour dire ça?
Je pensais à Trocheck, par exemple. Tu sais, je parle à...
Trocheck, là, Marc Bergevin était prêt à donner Pat Charity pour.
OK.
V'là 2 ans, là.
OK.
Je vous partage une information, il était prêt à le donner. Dans le cas présent, mettons, si tu voulais un Eric Halla, je suis pas sûr qu'il y avait de l'intérêt pour Trocheck, mais pour Eric Halla, est-ce que vous auriez donné Philippe Dano pour?
Mon Dieu, non.
Mais Philippe Dano, Trocheck.
Ouais.
Ben, c'est parce que le Trocheck, il répondait pas à un besoin chez les Canadiens présentement.
Je compare Dano avec Trocheck. Est-ce que, bon, tu peux me dire que Dano est bien meilleur à Trocheck?
On peut prendre l'exemple des Islanders
Mais Jérémy, le prix à payer à la Caroline, c'est Trocheck. Est-ce que l'équivalent chez nous, c'est Dano? Donc, aurais-tu donné Dano hier pour avoir ce que, tu sais, c'est ça la vraie vie, là. C'est que, on jase, mais...
Tu sais, je donne l'exemple des Islanders qui ont quand même été créatifs. Ils ont fait une transaction et se sont organisés pour signer le joueur à long terme, quitte à donner quelque chose, mais il s'assure des services à long terme d'un joueur de qualité comme Pageau. Tu sais, il faut que tu sois... Tu sais, des trade and sign, on n'a pas vu beaucoup chez le Canadien. Il faut que tu sois créatif.
Mais Bergevin a dit une affaire hier. Ouais. Là, c'est que quand tu es dans la position qui est là, c'est que tu n'es pas où tu voulais être. Il l'a dit, ça, là. Je veux dire, quand tu es vendeur à date limite des transactions, tu n'es pas là où tu voulais être. Et donc, tu peux bien faire comme les Sabres de Buffalo puis te faire croire que t'es là pour aller chercher Wayne Simmonds après huit années où tu rates les séries. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui a envie de donner une ovation aux Sabres de Buffalo un matin? Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu... À mon humble avis, les gars, là, j'ai pas de vérité, j'ai pas science infuse, mais de la manière que je vois ça, c'est que ne faut-il pas bouger quand c'est le temps? Et l'affaire qui me renverse le plus au-delà de la sémantique des apparences, c'est qu'on est dans un marché où j'entends et je lis, puis là, je mets pas de nom là-dessus, là, un certain appétit pour qu'on aille plus loin dans la reconstruction, qu'on aille plus loin dans le fait de revamper cette équipe-là. Et les gens se demandent ce que Marc Bergevin fait, puis pourtant, même s'il le communique mal, ses gestes, là, c'est assez clair ce qu'il fait. Il dépense plus de choix pour améliorer son club dans le présent, dans une équipe qui est un peu pognée dans le milieu puis qui réussit pas à avancer. Il pile des choix puis il se prépare à faire autre chose. Or, quand il fait ça, même s'il le communique mal, le marché, c'est l'incendie à Rio, là. C'est comme, donc finalement, les gens réclament ça. Il communique mal, mais il le fait. Mais là, il fait pas. Là, on va y trouver d'autres choses.
Non, mais tu sais, Mario,
t'sais, moi, t'as pas chanté parce qu'il a pas engagé un deuxième gardien. Hey, là, j'embarque 100 000 à l'heure. Mais pour, tu sais, pour une coupe d'affaires, pas d'aide au flanc gauche, à la ligne bleue. Hey, qu'est-ce que tu faisais, Marc? T'étais où, là? Mais pour le reste, il pile des choix. Est-ce que quelqu'un qui pensait, parce que là, il y en a qui se sont trouvés l'argument, il fallait changer ta Tower Petrie hier. Sinon, t'es un cave si tu faisais pas ça. Ben, je regrette, là, mais je veux dire, je voudrais pas que ces gens-là dirigent mon club à tombe 3Z, là. Pour vrai, là.
Mais je pense le scepticisme sur la stratégie, justement, d'empiler des choix puis de continuer à le faire, c'est de dire ensuite de ça, puis là, je parle aux yeux de plusieurs, là, c'est de dire, là, t'empiles tous ces choix-là, mais tu laisses l'équipe actuelle de recruteurs faire ces choix-là. Ça, je pense que c'est une partie du problème. S'il accumulait tous ces choix-là, mais parce que on s'entend que Trevor Timmons, oui, il y a ses partisans, Trevor Timmons, son équipe, mais il y a aussi beaucoup de détracteurs. Je pense qu'une partie du spin négatif de cette idée-là d'empiler les choix vient de ça, vient du fait que, OK, tu prends tous ces choix-là, mais tu les donnes à une équipe de recrutement qui a eu de la difficulté quand même ces dernières années.
Ça, je te rejoins.
C'est pas un bilan tout noir, là, mais effectivement, il y a quand même eu des occasions ratées. Et,
le X, c'est Kotkaniemi, les gars. Non, mais pas vrai, là, dans perception. Pourquoi
juste ça?
L'an passé, le Canadien manque les séries. Le président fait des high-five à la sortie, l'ovation, tout le monde va bien, on va être meilleur l'an prochain. Qu'est-ce qui s'est pas produit cette année? Suzuki a été peut-être au-delà des attentes, est devenu ce que Kotkaniemi n'est pas devenu, mais le doute sur le repêchage, moi le doute je l'ai depuis 15 ans, là, mais je veux dire dans les dernières années, si Kotkaniemi ressemble à une réussite en ce moment... Premièrement, la fiche de l'équipe n'est pas la même et le doute envers le dépistage n'est pas le même, non? Donc, le X, c'est Kotkaniemi.
C'est sûr que c'est la grosse tâche au tableau en ce moment.
C'est la dernière de plusieurs.
C'est ça. Mais oui, c'est encore très tôt, par contre, parce que
c'est encore très tôt.
Le jeune a 19 ans et demi.
Mais ça ne fait pas bien paraître personne à date.
Ça ne fait pas bien paraître, surtout parce que de l'autre côté, Brady Tkachuk a les résultats qu'on connaît et qu'on a très bien vu samedi dernier. Mais ça demeure dur à évaluer. Là où ça pose problème, je pense, c'est justement l'absence de succès des années précédentes qui fait en sorte que je pense que les gens ont plus de misère à donner le bénéfice du doute en attendant. Mm-hmm. En attendant que Kotkaniemi se développe, devienne un homme, un adulte.
Tout à fait.
Et c'est ça. T'sais, je pense qu'avec un meilleur bilan auparavant, les gens serait peut-être plus enclin à donner le bénéfice du doute en ce moment.
On regarde la situation à Ottawa, c'est drôle qu'on parle de ça, parce que je lisais les articles ce matin, les winners and losers, là, lesquelles équipes ont bien fait. Puis il y a beaucoup d'équipes qui trouvent que les Sénateurs ont bien fait. Mais les Sénateurs, c'est sûr que eux, ils ont vécu l'enfer depuis les dernières années. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais c'est assez clair dans quelle direction ils s'en vont. Donc, que tu sois d'accord ou pas, on voici le plan, puis on s'en va dans cette direction-là. Et eux ne semblent pas avoir la même crainte que nous par rapport au choix de repêchage. C'est vrai qu'ils vont avoir des meilleurs choix, là, on s'entend là-dessus.
Ouais.
Mais ils semblent assez confiants à Ottawa qu'avec les choix qu'ils ont et tout ça, que l'avenir va être bon pour eux.
Mais les Sénateurs, c'est une autre réalité et c'est un autre type de problème. Eux, dans leur cas, c'est un problème de rétention des joueurs.
Exact.
Donc, ils repêchent et ils n'ont pas le choix de se tourner vers le repêchage parce que c'est leur meilleure façon d'obtenir des joueurs. Mais ensuite de ça, quand ces joueurs-là arrivent à maturité, quand un Jean-Gabriel Pageot, par exemple, arrive dans ses bonnes années, ben là, regardez, il y a des chances que ce soit le propriétaire qui fasse partie de l'équation.
Ils ont liquidé des gros noms pour avoir autant de choix aussi, Stone, Carlson,
Pageot.
Liquidons tout, mais j'ai hâte de voir quand ils vont devenir une équipe championne dans 15 ans.
C'est que elle est là. Il n'y a pas eu une seule contradiction hier, il y en a eu plusieurs dans le discours de Bergevin, c'est que c'est, il y a deux concepts qui fonctionnent pas ensemble. C'est qu'il dit, on veut repartir par le repêchage. Très bien. Mais on aime notre noyau, on veut pas y toucher. Mais pour aller chercher des hauts choix repêchage, ben, faut toucher au noyau. Forcément, tu sais, c'est pas, je veux dire, c'est très bien. Le Canadien, hier, a récolté un 7e, un 4e, un 5e, puis un 3e si on rajoute Kovalchuk. OK, mais pour vraiment rebâtir une équipe, aller chercher des gros poissons repêchage, ben faut toucher au noyau. Fait que j'ai l'impression que ces deux idées-là sont contradictoires, de dire on veut rebâtir par le repêchage, mais avec des choix de 2, 3, 4, 5, 6, 7e ronde, comme hier, quand il nous a fait l'apologie du 7e choix obtenu en échange de Mathieu Pekka, parce que Caden Primo et Jake Evans sont des 7e choix. C'est difficile de pas sourire, de dire, ben voyons, tu sais, on devrait tous s'émerveiller d'un choix de 7e ronde.
Non, c'est sûr que les choix de 7e ronde, il va pas, fermer le clou et le bec à personne là-dessus, mais ce que je crois comprendre de ça, c'est que d'échanger des premières rondes là, c'est-à-dire d'aller chercher des premières rondes, c'est des équipes qui vont pas finir dans le cave, là, qui viennent chercher les choix de première ronde. Fait que tu vas chercher le premier ronde de Tampa Bay.
Ouais, tu vas repêcher 28e, 29e.
Moi, c'est ça que je comprends. C'est que, donc, là, vous me demandez, là, de donner un choix de première ronde pour des équipes qui vont finir, qui vont repêcher tard. Alors, hier, lui, considère qu'il s'avance pas à grand-chose. À tort ou à raison, moi, c'est ça que je comprends de ce qu'il dit.
Marc Bergevin, hier, a dit quelque chose d'intéressant. C'est selon les calculs que l'organisation a fait, je crois que dans les 10 dernières années, corrigez-moi si je me trompe, c'est que les chances de faire la Ligue nationale entre le choix de 25e et le choix de 41e, c'est mathématiquement, c'est à peu près la même chose.
C'est pour ça qu'il veut pas sacrifier un choix de première ronde pour ça.
Exactement. Donc lui, il dit à partir du 25e jusqu'au 41e, mathématiquement, à peu près, les chances de faire la Ligue nationale sont à peu près les mêmes. Mais je voudrais poser une question. Qu'est-ce que ça dit de Marc Bergevin d'avoir amené Kovalchuk et Scandella ici, il y a de ça un mois, deux gars qui semblaient vraiment se plaire ici? On pensait qu'il y en aurait au moins un des deux qui aurait signé une prolongation de contrat pour l'année suivante. Finalement, les deux s'en vont. C'est assez surprenant de voir que deux gars qui ont dit publiquement qu'ils étaient heureux d'être ici, qu'ils étaient heureux de la situation, mais qu'il n'y en a aucun des deux qui a dit « ben moi, je suis prêt à signer tout de suite pour rester avec cette équipe-là », les deux sont partis.
Ben, le bout qu'on connaît pas, c'est les demandes, là, premièrement. Là, à mon avis, Scandella, en tant que défenseur gaucher de profondeur, c'est pas nécessairement ce dont le Canadien a besoin, parce que t'as déjà Brett Kulak, t'as déjà Victor Mété, t'en as des gars pour jouer 15-16 minutes sur le troisième duo. Donc moi, ça, c'est une chose. Puis avec Kovalchuk, de la façon que Bergevin l'a traité, et
il y a un deal sous la table.
Ben, écoute, j'irais peut-être pas si loin que ça, mais en tout cas, c'est ce que Bergevin espère.
Ben, qu'il revienne ou pas, moi, je pense que la transaction qui est arrivée avec les Capitals, je pense que c'est une conversation de longue haleine entre Kovalchuk et Bergevin, parce que quand il a accepté de se joindre quand le Canadien a accepté de le signer, disons-le comme ça, Kovalchuk, son rêve, c'était de gagner la Coupe Stanley. Il savait, j'espère qu'il savait en tout cas que c'est pas avec le Canadien cette année que ça se passerait, qu'il y ait des séries ou non. Fait que, tu sais,
il a cru le temps qu'il fallait qu'il y croie, puis il a eu l'air d'y croire le temps que.
Non, mais je pense qu'il a donné un bon coup de main. Je pense qu'il a donné un bon coup de main au Canadien.
Oui, mais tu sais,
lui, son rêve depuis le début, c'était de gagner la Coupe Stanley, puis il voulait jouer avec une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Alors, forcément, Kovalchuk devait pas se voir avec le Canadien le 25 février parce que, je veux dire, à moins que le Canadien ait été un ultra acheteur ce jour-là, ce serait pas arrivé. Fait que moi, je pense que Kovalchuk, oui, peut-être qu'il y a eu des discussions pour un contrat, mais j'ai de la misère à croire qu'il y a eu des discussions sérieuses qui l'ont fait hésiter pour dire, ouais, je vais tout de suite signer un contrat pour l'année prochaine.
Simon, Olivier, c'est ça, puis je pense, juste pour ajouter mon grain de sel à ta question, Jérémy, regardez de la manière que Marc Bergevin a traité du sujet Kovalchuk hier. Je vous pose une autre question. Pensez-vous que si Kovalchuk avait dit « Mark, don't move me, please, keep me here », il l'a regardé, fait qu'il a accompli la volonté du joueur d'aller vivre une autre expérience.
Ben oui.
Tu sais, honnêtement, c'est rien d'autre là. Fait que tu sais, je vois le monde là qui sont vraiment fâchés. T'sais, c'est ça qui est ça. Le joueur, lui, il dit tout le temps les bonnes affaires. Lui, il peut pas mal paraître parce que lui, sa cassette est pas usée. On l'a connu deux mois. L'autre, ça fait 8 ans que sa cassette joue. Puis on n'est plus capable de l'entendre. Puis c'est ça la grosse différence. T'sais, dans le fond, là, le gars voulait pas finir l'année ici.
Moi, je pense que Kovalchuk avait vraiment besoin de Montréal au moment où c'est arrivé. C'est parfait. Le mariage était bon. Il est arrivé ici. Il s'est relancé. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec les Capitals. Mais je pense qu'à partir du 1er juillet, il va essayer de se rapprocher de sa famille. famille. T'sais, si il reconnaît qu'il y a une certaine valeur qu'il a réacquise, puis qu'il y a quelques équipes qui sont intéressées à lui, je pense qu'il va se pencher, il va rester dans la conférence de l'Ouest. Là. Je le vois pas revenir ici.
Et d'ailleurs, le sujet Kovalchuk a pris beaucoup de place dans le point de presse hier. Là. Somme toute, c'est pas un sujet qui va avoir une grosse incidence les 5 prochaines années du Canadien. T'sais, honnêtement, c'est là que tu vois que c'est un sport d'émotion, puis ce qui suscite l'émotion suscite des questions, de la curiosité.
Je comprends ce que tu veux dire, puis t'as raison dans le sens qu'on s'entend que c'est pas... Si Bergevin avait eu un deuxième choix, lui, un troisième choix, c'est pas ce qui aurait transformé l'équipe radicalement au cours des prochaines années. Mais il y a quelque chose d'un... Je reviens avec les nombreuses contradictions, je m'excuse de me répéter, mais
non,
il y avait quelque chose de complètement paradoxal de dire on est en train de faire le plein de choix repêchage, et là, tout on dit, bon, ben ça prend des choix repêchage relativement élevés, etc., et du coup dire ben on a décidé d'accommoder Kovalchuk en l'envoyant aux Capitals pour un choix de troisième ronde qui va être grosso modo le 95e du
repêchage, 90e
mettons ou autour de
on laisse les autres équipes faire des erreurs.
Non mais c'est ça. Non mais je veux dire non, mais... Fait que là on dit ça puis là c'est tout à coup peut-être qu'il y avait une meilleure offre que ça mais on voulait envoyer Kovalchuk dans un milieu qu'il aime puis je suis comme qu'est-ce que le Canadien doit à Ilya Kovalchuk? Je pense que ça a été ça a été une belle aventure, mais c'est comme si Kovalchuk avait joué 1000 matchs à Montréal et on lui disait, va gagner la Coupe Stanley ailleurs. Et,
mais écoute, dans les dernières années, là, il y a eu plusieurs joueurs qui ont quitté et ça s'est mal terminé. Puis on a reproché à Marc Bergevin de pas avoir fait les choses de façon assez professionnelle. Puis ça, c'est des choses, des joueurs s'en parlent dans la Ligue. Donc peut-être que chez le Canadien, on a eu une réflexion par rapport à, on peut-tu commencer à partir de maintenant, à quand on a des joueurs qui ont... Tu sais, qui ont connu des grandes carrières dans, quand ça se termine, on peut-tu s'organiser pour que ça se termine mieux que ça s'est terminé avec Radulov ou Pacioretty?
Qui était parti en plein match, les gars? C'était-tu Kamel Harris?
Ça, c'était l'ancienne administration. C'est un bon point de Jérémy. Je pense qu'une partie de ce que Bergevin, de la façon dont Bergevin a géré Kovalchuk, c'était peut-être aussi un message au reste de la ligue pour essayer de faire un, je veux pas dire du damage control, mais disons, réétablir un peu la réputation de l'organisation. Parce que, comme tu le dis, ces cas-là qui sont mal finis, on pourrait je pense que tu as mentionné Andrei Markov, on pourrait même ajouter Josh Georges, ça avait fini drôle un peu avec l'échange avorté à Toronto, finalement à Buffalo. Donc, il y a eu des cas comme ça, ça se parle. Je lance un nom comme ça, mais le Canadien, on le sait, va tenter d'attirer Alexander Romanov dans l'organisation. Le hockey russe, c'est un petit milieu aussi. Est-ce que ça finit tout croche avec Kovalchuk puis qu'il n'est pas content, ça peut être quoi les répercussions? Regardez, ça peut aller dans toutes les directions. Mais tout ça pour dire que il y avait une façon de je pense de rétablir un peu l'image de l'équipe.
Je disais José Théodore qui est quand même un ancien joueur là puis qui disait dans son article même s'il est sévère envers Bergevin sur cet aspect-là, il dit moi je suis sûr que c'est bon pour sa perception dans la ligue. Puis on va se dire une autre affaire aussi là. Mettons que Bergevin l'amène pas Kovalchuk cette année là. C'est pas le même point de presse hier là. Là on était peut-être à 15 points des Leafs de Toronto. Je sais pas. Non mais lui seul il score 3 buts gagnants. Fait que lui là, il permet hier d'y aller, de continuer de maintenir l'illusion dans son discours que même si les chances sont minces, les séries, on est encore là. Si t'as pas des blessés, on n'est pas loin des Leafs. Fait qu'il peut garder la cassette du début de l'année. Avec une coupe de points, là, OK, on tourne les coins ronds, mais grosso modo, pour lui puis pour le Canadien, ça vaut de l'or, parce qu'eux autres, ils pensaient pas qu'ils gagneraient la coupe cette année, là. Ils voulaient, c'était quoi le pitch au début? On veut une équipe qui se bagarre à tous les soirs dans le but de faire les séries.
Ouais.
Bon, ben, 25 février, hey, c'est sûr, ils n'ont collé des défaites, mais ça respecte la ligne du parti, si vous me passez l'expression. Puis ça, c'est grâce à Kovalchuk. Grâce à Kovalchuk.
C'est un coup de maître de Bergevin Kovalchuk.
I owe you one, là, tu sais.
Faut y donner, c'est un coup de maître de Bergevin Kovalchuk, de vraiment faire le pari à coup nul ou quasi nul que ce gars-là, ça va marcher. Et ça a marché. Et ça lui a valu ultimement quand même un choix de troisième tour. C'est incroyable. Il n'y a pas de doute. Dans ma tête, il n'y a aucun doute. Après ça, comme j'entends tout ce que vous dites, moi, j'ai un peu l'idée de dire le Canadien, justement, il a tellement traité les joueurs de manière ordinaire que je comprends pas pourquoi on déroule le tapis rouge pour ce gars-là. Mais ensuite, je pense que vous avez tous des bons points aussi sur le fait que, tu sais, juste le...
Mais
juste
la question est légitime, Simon Olivier.
La manière dont Kovalchuk a dit avant de quitter, je comprends pas que les joueurs autonomes viennent pas ici. C'est le meilleur endroit où jouer au hockey dans le monde. Mais ça, pour
des meilleures décisions de ma vie,
c'est incroyable.
Ils ont investi. Au lieu d'un choix de 2 conditionnel, c'est un choix de 3. Mais l'organisation sort un petit peu mieux publiquement. Puis peut-être que ça va aider à signer un autre joueur éventuellement.
Ou de le ramener.
Honnêtement, ce Kovalchuk n'arrive pas, là, il y a peut-être été à cette date-ci, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu sa job.
Peut-être.
Tu sais, ouais. Tu peux pas exclure ça, là. T'sais, c'est une business d'émotion nerveux, là. Mettons que toutes les games qui a perdu, même si ça a été court.
Ah, oh, ça a fait descendre la température, là. Une couple de ces victoires-là, puis surtout battre Toronto.
Fait qu'il dit, je vais te faire sortir avec Klaus. Je sais pas si c'était ça qu'il pensait, mais regarde.
Non, mais j'espère qu'on va apprendre des leçons par rapport à ça. Parce que, tu sais, encore une fois, cette année, tu tombes dans une passe au mois de décembre, tu perds 2-3 joueurs clés. Tu sais qu'ils sont, ils sont absents pour 4, 6, 8 semaines. D'essayer de bouger un peu plus rapidement. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale. Ah, ben là, on a perdu tel joueur, puis, ah, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est de même, puis.
Ben, là, tu sais. Ben, ça, c'est intéressant. Philippe Quentin tenait ce discours-là, Benoît Brunet également, puis peut-être d'autres, j'ai pas tout entendu, mais ouais, là, t'es sur du détail de l'année, là. Deuxième gardien, tu sais, Colorado, t'allais chercher un en KHL, le Francouz, là, qui a un pourcentage en haut de, tu sais, qui a permis à l'Avalanche. Tu sais, il y a quelqu'un qui en a trouvé un autre gardien sur la planète, puis il avait pas été des mineurs l'an passé.
Puis si si présentement à Toronto, ça marche pas, là, puis ça continue de mal aller, là, puis tu vas avoir un certain espoir de peut-être rester dans la course jusqu'à la fin. Maudit tabarouette, ça aurait pris un deuxième gardien. Je sais pas ce que ça aurait coûté, mais
ça, c'est une critique. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme défense sur cet argument-là.
Mais tu sais, puis quand on parle de la journée d'hier qui était pas mal à la hauteur de ce qu'on attendait, ben je pense que s'il y avait une place justement où Bergevin avait une occasion de peut-être excéder les attentes puis de faire quelque chose qu'on n'attendait pas puis qui aurait pu être une bonne chose, ça aurait été de régler son problème de gardien numéro 2. On le sait, puis lui-même l'en parle, là, les joueurs autonomes, c'est pas toujours facile de les attirer. Des bons gardiens numéro 2 comme joueurs autonomes sur le marché cet été, il y en aura pas un million. Il va avoir Anton Udobin, tout le monde va être après lui. Il va avoir Yaroslav Halak. C'est particulier comme dynamique.
Il va avoir plus de possibilités cet été qu'il y en avait hier.
Mais il va y en avoir. Mais
c'était qui hier les possibilités? Michael Hutchinson? Colorado, là, était vraiment recherché un gardien. Robin Lehner. Mais là, tu voulais Robin Lehner pour finir l'année en fin de contrat cette année.
Non, mais moi, je pensais plus à une solution durable. Les Coyotes de l'Arizona, c'en est une. T'as Darcy Kemper, t'as Antti Raanta et t'as Aiden Hill qui est là en ce moment. Kemper revient en santé. Ils vont avoir 3 gardiens. T'as des possibilités comme ça si t'es créatif.
Situation contractuelle des gars, y'a-tu un gars UFA là-dedans ou c'est-tu des gars
sur contrat? Non, c'est ça, ils ont tous des gars.
Okay. En parlant de gardien.
Ça peut se faire cet été, par exemple.
Oui, mais tu sais, t'avais une chance de le régler là.
J'ai été assommé de voir que les Hurricanes n'ont pas bougé à ce niveau-là.
J'ai été étonné, mais le rapport médical doit être positif, j'imagine, sur la santé des deux gars.
Ça a l'air que les deux gars, c'est du long terme. Ça a l'air que les deux gars sont out long term.
Les Hurricanes, faut pas oublier, l'année passée, ont eu un sacré bout de chemin avec le tandem Mrazek et Curtis McElhinney.
Oui.
Reimer et Mrazek seraient out long term.
Mais ils ont été capables de battre Toronto avec un chauffeur de Zamboni.
C'est ça qu'ils disent. On a tellement de bonnes défensives qu'on n'a pas besoin de gardien. Je sais pas, mais je m'attendais hier à quelque chose.
D'ailleurs, Marc Bergevin doit avoir envie de remercier les Leafs de Toronto parce que, avouons les gars, que pour une équipe qui a gagné à la loterie, qui a été capable d'attirer un rare joueur autonome de premier plan au Canada, qui a été médiocre pendant plus d'une décennie, qui lui a permis de repêcher haut à plusieurs reprises. La médiocrité continue, ou en tout cas les turbulences qui sévissent à Toronto actuellement, donne des munitions à un gars dans un marché, la situation de Marc Bergevin est à Montréal,
marché
est bien
d'autres similaire, exact.
Ici, tu n'es pas capable d'attirer un gros joueur autonome, à date, là.
Non.
T'as pas gagné à la loterie, à date. Puis t'es à une coupe de points d'un club qui devrait être un aspirant à Coupe Stanley. Mais j'aimerais ça qu'on se compare au meilleur, là. Mais je veux dire, c'est un voisin proche, puis tu sais.
Mais je me demande, je fais du coq à l'âne, là, mais est-ce que la perception de Mike Babcock, qu'on a dit, il n'y a plus personne qui va engager ce gars-là, change tout d'un coup? Quand on regarde comment les Maple Leafs fonctionnent depuis quelques semaines, peut-être que lui, tout d'un coup, on regarde l'autre bord, on se dit, c'était peut-être pas juste de sa faute à lui, hein. Il est peut-être pas si mauvais que ça. Parce que quand il est parti, c'était épouvantable ce qu'on disait sur lui.
Mais ben, faut juste une petite nuance à faire, c'est que Babcock, quand il est parti, toutes ses méthodes ont été mises en lumière, qui était comment il était rude et intimidateur avec ses joueurs. Mais c'est pas à cause de ça qu'il est parti. Il est parti parce que les Leafs étaient pas capables de gagner. Fait que c'est juste ça un peu la nuance. Après ça, c'est pas la première fois qu'on voit un entraîneur se faire congédier et voir qu'après ça, ça se replace pas nécessairement, qu'il y a eu une embellie, mais qu'il a été passagère. Fait que Babcock était pas un paria quand il a été congédié. C'est dans les semaines suivantes, quand il y a eu après ça les autres entraîneurs, là, j'oublie le nom, celui des
Bill
des
Peters. Flames,
Bill Peters, merci.
Mark Crawford qui était mis de côté pendant un certain temps. Les comportements des entraîneurs, les stratégies. Demander à un joueur recru, dis-moi qui, selon toi, il avait demandé à Mitch Marner.
Ouais,
donne une note à tes coéquipiers, savoir qui qui se donne vraiment.
Travaille fort.
Le piège du rookie, là, le coach, il te réserve ça. Fait que ça, c'est sûr que ça un peu pâli la perception.
Exact, mais c'est après le congédiement. C'est pas, c'était pas en amont, là.
Mais quand je regarde les clubs en avant du Canadien, Toronto, ça va mal comme ça, pas de bon sens. Les Panthers, encore une fois, c'est, tu sais, on achète, on vend,
Ils sont pas améliorés, les Panthers.
Je sais pas ce qu'ils font. Puis les Sabres de Buffalo, ben, tu sais, c'est les Sabres de Buffalo, mais.
C'est de la bonne nouvelle, Jérémy. C'est que, je vous laisse évaluer, comment le Canadien est dirigé, si vous avez une note à donner sur 10 par rapport aux attentes qu'on avait, par rapport à la réalité, puis ce qui s'en vient, puis les choix de repêchage. Mais il y a beaucoup d'équipes qui demeurent médiocres. Et ça, c'est extraordinaire, d'une certaine façon, si toi, t'es capable d'être meilleur que les autres. Non, mais c'est vrai. Regardez ça, les gars. Je veux dire, Toronto, c'est incroyable. Puis, et le problème de Marc Bergevin, je pense, après l'exercice de la discussion d'aujourd'hui puis hier, c'est carrément un problème de communication, là. C'est qu'à un moment donné, dans un marché aussi fébrile que Montréal, quand t'as des échecs répétés, on veut plus l'entendre. Même si c'est vrai ou même si c'est à moitié vrai, les gens veulent plus l'entendre. Alors, dites-moi combien de DG, pour pas plus de résultats, parce que la réalité change pas, combien de DG ont défilé à Edmonton depuis leur participation à la finale de la Coupe Stanley en 2006? Combien de DG ont défilé à Toronto? Combien de DG ont filé chez les Islanders? Combien de DG ont défilé à Vancouver? À Calgary? Brian Burke, Tre Living, puis qui est allé à Brian Burke? La réalité, c'est que dans ces marchés-là, on a dit, puis comme à Montréal, on a toujours fait dans le passé, siège éjectable, le message passe. Puis là, on a une situation différente. C'est qu'il y a un propriétaire et président qui dit, qui vit avec probablement les retombées négatives du fait qu'il garde le même gars. Parce que tu changes de gars, tu t'ajoutes une lune de miel de 2 ans, vous êtes d'accord avec ça? Il y a rien qui va changer sa glace, là. T'ajoutes la paix. Tu fais sauter, t'achètes la paix. Le président propriétaire, à mon humble avis, a décidé que lui, il achetait pas la paix. Il pense qu'il y a le bon gars. Jusqu'à preuve du contraire, même si son message ne passe plus. Où est-ce que ça va l'emmener?
Il pense qu'il y a le bon gars. Puis
le résultat va être bien différent dans les autres marchés où ils ont passé 4 DG pour arriver à la même place.
C'est ça. Ben, il a pris le pari de la stabilité. Puis ça, c'est une chose dont il a parlé aussi dès le début. On va lui donner le mérite d'être resté conséquent à sa vision de ce côté-là. Parce que, oubliez pas que quand Jeff Molson est arrivé en poste, ben, justement, les DG, il y avait quand même du roulement à Montréal aussi. Là. Bob Gainey a peut-être fait un plus long bout. Mais avant ça il y avait une période un peu plus André Savard et Jean Houle, il y avait eu il y avait quand même eu beaucoup de mouvements, donc il a pris le pari de la stabilité. On va voir où ça va le mener, disons que c'est
écoute, c'est mal parti. Ce qu'on comprend hier là, c'est qu'il aime son noyau, il veut recompétitionner dès l'année prochaine pour essayer de faire les séries éliminatoires. Lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il y a moyen d'échanger plusieurs choix pour essayer de s'améliorer ou aller chercher des jeunes, il n'a pas été très clair là-dessus. Mais c'est tout ce qu'on comprend. C'est que l'année prochaine, on va encore essayer de se battre pour faire les séries. C'est ça que je comprends.
Ben, je reviens à la déclaration de Jeff Molson, là, qui est sorti au début d'année, je pense que c'était sur Sportsnet, là. Qu'est-ce qu'il avait dit? 3 à 8 ans. Ben, il y a quelqu'un qui a joué de ça à l'interne, là. Tu sais, il dit, on va être bon dans 3 à 8 ans. C'est assez clair, là, 3 à 8 ans. Confide, c'est 3 ans plus de développement.
Je peux pas croire qu'on peut parler de même. T'sais, dans le monde du sport, il y a tellement d'affaires.
Mais non, mais Toronto, là, ça a pris combien de temps depuis la loterie de Matthews? Puis avant les années, avant qu'ils se préparent à la loterie, ça a été combien d'années? Donc, on souhaite des choses, mais qu'on n'a pas la patience de le vivre, par exemple. Il y a pas une, tu sais, on dit que Bergevin a un double discours, le Canadien a un double discours, le marché a un double discours par moment, non?
C'est parce que le 3 à 8 ans, c'est vrai si vraiment on fait table rase puis on recommence. Tandis que le Canadien, c'est pas ça qu'ils font. C'est le vote de confiance dans le noyau qu'on change pas. Puis, c'est une stratégie qui se défend. C'est que, je veux dire, ils ont le droit. C'est pas à moi de décider si ils ont raison ou pas raison. Mais s'ils disent qu'on prend le long chemin, ben, le long chemin, c'est pas garder tous les joueurs du noyau en place puis dire on espère faire les séries l'année prochaine. C'est liquider puis vraiment reconstruire par le repêchage. Fait que branchez-vous, finalement. C'est un peu ça, là.
Et je pense que ce qui les coince là-dedans, c'est Carey Price et Shea Weber qui ont Weber à 34, Price à 32. C'est des gars qui sont surtout pour Weber, disons, dans les dernières années où vraiment il peut être à son maximum. Il va avoir un déclin éventuellement. Carey Price, on verra, là. C'est un gardien, c'est différent. Mais ça reste qu'il doit profiter de ses ces années-là d'un point de vue collectif. Puis ensuite, ben, il peut pas non plus dire à ces meneurs-là, à ces vétérans-là, vous allez perdre pendant 3 ans.
Mais c'est pour ça que je lui en veux pour. Tu sais, le moment
ça commence bien
disait,
une citation, t'écoutes.
Non, mais tu sais qu'elle nous disait, moi je crois pas ça aux fenêtres d'opportunité. Là, on n'est pas dans la fenêtre. Là. On n'est pas dans la fenêtre depuis une couple d'années. On n'est pas là. Mais on a déjà eu une fenêtre. Puis quand on a eu une fenêtre, au lieu d'essayer de la défoncer, bon, on y est allé mollo. C'est pour ça que je dis que si je recule, il y a 4-5 ans, où on avait un club qui s'était rendu en quart de finale légitimement contre les Rangers, qui avait un bon noyau, que c'était le temps d'ajouter quelques morceaux à ce noyau-là pour essayer d'aller gagner quelque chose. Parce que tu sais qu'éventuellement, Price va prendre de l'âge. Après ça, t'as Weber qui arrive puis il prend de l'âge. Donc, quand ta fenêtre est là, il faut que tu y ailles. À un moment donné, il faut que ce soit à ton tour. Il faut que le public là, qui est payant, là, il est patient quand ça va mal, mais il faut qu'il sache aussi que quand ça va être le temps, tu vas le récompenser. Mm-hmm. Tu vas y aller, tu vas t'essayer.
C'était peut-être une erreur, mais on l'a déjà dit. Mais lui, quand son équipe s'est effondrée avec la blessure de Price, lui, là, il a tiré à plat sur son équipe.
Et parce pourtant, que l'année précédente, ça avait été une bonne année.
L'a déçu, Jérémy. Il n'aimait pas son équipe. À tort ou à raison, il l'aimait pas son équipe. Et il est allé au bout de ce qu'il pensait qu'elle pouvait lui donner. Puis là, lui,
parce que je te jure, il a tiré sa plug.
Il a éradiqué son champ gauche. Souban, il a tranché là. Puis
il y a 5 ans, là, il y a 25 DG dans la ligue qui auraient dit, je la prends cette équipe-là.
Possible.
Mais
juste pour compléter sur ce que t'amenais comme point, Simon-Olivier, par rapport à c'était quoi nos attentes par rapport à hier, c'est que, tu sais, il n'y a pas de garantie que Petrie, puis Tatar, puis Price, puis Weber vont être ici pour les 10 prochaines années, ni les 5, ni les 3 prochaines années.
Je dirais que Price et Weber sont bien ici.
Peut-être, mais tout ce que je dis, c'est que beaucoup de gens se craignent sur le fait qu'hier, il n'a pas fait table rase. Je veux dire...
Bon, c'est pas hier que ça se serait passé.
Non, mais justement, mais je vous prête pas ces mots-là, là, mais je veux dire, ceux qui pensaient ça, il n'était pas condamné. 24 février, il faut que je fasse exploser à la maison. Je pense pas qu'il était obligé de faire ça. Puis donc... Et même, je pense que, parce que entre nous, là, même s'ils communiquent pas super bien, puis que l'exercice d'hier, peut-être qu'il a scoré dans ses goals, là, je veux dire, pensez-vous que c'est un nono?
Non.
Ça
revient au fait.
Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Il y a de quoi dans la tête? C'est pas un nono, puis qu'il y a des choix, puis qu'il veut changer son équipe, puis il veut pas avoir l'air d'un cave pendant 15 ans encore à dire la même sornette sur la tribune de presse. Donc, il va faire quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un timing cet été. Puis, en entrevue, au début de la saison, là, il a échappé, puis oubliez pas le repêchage. Le gars a dans la tête son repêchage de 2020, ça n'a rien à voir avec les 82 matchs que son club va jouer, là. Il l'a dans la tête. Il y a une stratégie, là. Fait que, je sais pas c'est quoi tout, mais donc, il y a un peu des choix. Finir mon affaire. Là, il y a plusieurs joueurs qui arrivent à une conjoncture, là, les as sont alignés où, là, il va faire des pitchs à des gars. Tu veux-tu rester avec moi ou tu veux pas rester avec moi? Petrie, Tatar, Dano, Gallagher, Domi. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Ceux à qui il va le soumettre vont dire oui, il va s'entendre s'il peut s'entendre. S'il peut pas s'entendre, là, c'est le temps de bouger. Moi, je pense que c'est le show, il s'en vient. C'est à la fin de l'année.
Mais Mario, on dit ça toutes les années.
Non, c'est pas toutes les années que le Canadien repêche à Montréal avec 14 choix en banque, puis 6 gars, possiblement, en situation d'autonomie dans l'année que suivante. C'est un alignement des as, ça.
On s'est souvent posé la question, OK, là, ils se sont gardés de l'argent en banque. Ils ont de l'argent. Donc, ils ont une stratégie. Donc, à la date limite, ils se sont gardés cet argent-là parce qu'ils ont un plan et ils vont. Puis là, à chaque année, il s'est rien passé.
Non, mais tu penses pas que ça a de l'allure?
Tu comprends ce que je veux dire?
Oui. Tu penses pas que ça a de l'allure? Qui fixe 20-20 repêchage Montréal, 14 choix, beaucoup de gars à discuter.
Maintenant, non? C'est en été que les
transactions
se font. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, tu sais, ça là-dessus, j'ai aucun doute qu'on n'a pas vu la fin de son plan pour cette année, parce qu'effectivement, il y a des dossiers qui vont se régler au repêchage. Tu parles des futurs joueurs autonomes, ben c'est ça. Est-ce que ça peut être un Domi, par exemple, qui va faire partie de quelque chose de gros? Ça se peut. Ça reste que, c'est ça, il y avait quand même des petites occasions d'avancer, de faire des petits pas vers l'avant hier, et il les a pas faites. Et c'est peut-être, tu sais, j'ai donné l'exemple du gardien numéro 2 tantôt, qui est un dossier qui aurait pu, auquel il aurait pu essayer de s'attaquer, il l'a pas fait. Un autre exemple, c'était mon texte de ce matin, mais c'est le club école. T'as le club école qui est dans une course aux séries. T'as une occasion de donner un peu d'oxygène à ton club école, de donner une expérience. Au mois d'avril, là, quand le Canadien va être pris le nez. Si tu as Jesperi Kotkaniemi qui participe à des séries avec Ryan Poehling et que Krim peut-être qui gagne un tour de séries éliminatoires, ben t'as quelque chose de positif dans, dans l'organisation. Oui. Mais là, à place de ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est enlever des joueurs. Ils n'ont pas donné d'oxygène au club école. Ils n'ont pas donné de joueurs. Ils ont échangé Pekka contre un joueur de d'ECHL. Donc là, c'est, quand on parle d'occasion ratée, c'en est une. Là, je vous ai Nick Cousins. Est-ce que tu aurais pu, à place, obtenir des joueurs qui auraient pu aider ton club école ou un autre joueur de Ligue américaine pour pouvoir renvoyer en bas?
Mais mettons, mettons que dans deux semaines, là, t'es à 3 points. Mettons. Juste n'importe quoi. Là. Puis là, le price, là, il tire de la langue. Puis là, tu dis, Colin Dabin, il faut qu'on mette. Tu rappelles-tu Caden Primo? Puis tu lui dis, bon, ben, viens-t'en finir l'année avec nous autres. Quitte à peut-être sacrifier les séries en bas, mais viens-t'en en haut parce qu'on va peut-être avoir besoin de toi une fois aux 10 jours, une fois aux 2 semaines. C'est qui ton numéro 2?
Il y a quelque chose. Je comprends ce que tu dis. Puis je pense que le Canadien, avec le message qu'il a envoyé hier, je pense que le focus est sur Montréal. Alors moi, je sais que pas quelque chose qui me surprendrait du tout s'il rappelait Primo pour des matchs plus importants. Cependant, Primo à Laval, c'est pas le party.
C'est
là.
Pas
ça
le party.
Ça va pas bien non plus. Ça va beaucoup moins bien présentement que ça allait au mois de décembre, je pense, quand Primo est venu jouer à Montréal. Mm-hmm. Fait que la solution interne est pas, tu sais, tout à coup, Primo est plus une incroyable solution. Mais pour revenir à ce que Mario disait tantôt, puis en réaction aussi à ce que Guillaume dit, je pense que Bergevin, hier, effectivement, je pense pas qu'il y a eu une... Je dis plus tôt, il n'y a pas eu une mauvaise journée, mais ça reste cette incapacité-là à nous expliquer où ce qui s'en va. Puis c'est ça qui crée autant d'insatisfaction. C'est que hier, à la fin de la journée, comme me disait Marc, à la fin de la journée, on était un peu à se dire, bon, ben, on en est où, là? Et qu'est-ce qui s'en vient? Et personne n'a de réponse à ça parce que ça va un peu dans tous les sens. Et puis comme Guillaume m'a dit, si au moins il avait donné un coup de main à son club école... Et on aurait pu dire, bon, ben, cette année,
on donne un coup sur le club école de quelle façon? Ben, en embauchant un vétéran ou? Parce que là, tu veux donner la glace aux jeunes, là. Ils sont en bas, là. Tu veux qu'ils jouent, là.
Ben, c'est ça. Mais c'est ça. En fait, la logique présentement, c'est avec ce que le Canadien a fait cette saison, en renvoyant Kotkaniemi à Laval, en envoyant Poehling, c'était de dire, bon, ben, ces gars-là doivent jouer à Laval. Mais là, tout à coup, il a complètement vidé le club à Montréal. Il a pas mis des vétérans pour remplir des chandails. Là, tu sais, Nate Thompson, c'est correct qu'il y ait un cinquième choix, puis c'est correct qu'il l'a échangé. Mais il aurait pu, je reviens à ce que Guillaume disait tantôt, Thompson Cousin, il aurait pu avoir un joueur de la Ligue américaine pour aller aider Joël Bouchard. Alors là, alors qu'au cours des prochains jours, ce qui risque d'arriver, c'est qu'un joueur de Laval soit rappelé à Montréal. Parce que là, Montréal, il y a 20 joueurs.
C'est le minimum, là.
Tout le monde est habillé. Alors, s'il y a un gars ce soir qui se casse un ongle, ben, cette semaine, pour le match de jeudi, ben, ça va prendre un joueur de Laval. Fait que là, forcément, on déshabille Laval.
Le Rocket s'en va sur la route cette semaine. Ouais. Donc, si ça se peut aussi même qu'il en rappelle juste un pour avoir un gars d'extra.
Exact.
Si jamais il se passe de quoi. À Laval, t'as déjà des joueurs des CHL, ils ont un gars de l'université McGill, ils donnent des essais à gauche, à droite. Et Jake c'est Evans, pas comme ça que tu te rends en série.
Hier, Bergevin a vanté Jake Evans. Je pense qu'effectivement, Evans a montré des belles choses, mais c'est drôle que là, tout à coup, pour 18 matchs, c'est Evans qui a l'audition à Montréal pour le poste de quatrième centre, alors que c'était un élément important du Rocket dans la course vers les séries, Rocket est encore participant.
Mais en fait, son rappel à Evans en soi, il se défend en plus, parce que si tu lui donnes un vrai rôle de quatrième centre, tu lui donnes 12-13 minutes à Montréal, ça va, il va progresser là-dedans, mais il faut que tu aies quelqu'un à Laval pour le remplacer, parce que là, sinon, tout ce que tu fais, c'est de continuer à remplir par le bas, par des gars sur des essais, des gars des CHL, tout ça. Puis, ben, avec pour conséquence que ceux que tu laisses en bas vont probablement se retrouver exclus de la course aux séries. Puis,
la semaine dernière, Joël Bouchard disait qu'il avait l'impression d'être en camp d'entraînement à Laval, et le camp d'entraînement se poursuit, parce que, Colin, entre sa déclaration-là et maintenant, ben, entre-temps, Carl Osner a été rappelé. Jake Evans a été rappelé. Fait qu'on continue de tourner, de rajouter des gars qu'on connaît pas dans ces chandails-là.
Les gars, c'est presque le moment de la fin, mais vous savez à quel point la perception, c'est important pour l'organisation du Canadien. Et quel est leur talon d'Achille? C'est le développement des jeunes ou leur recrutement? Puis là, ben avec un petit mini-recul avec Kotkaniemi, Fleury et Poehling, je pense... En fait, je vous pose la question, puis on répondra peut-être sur la musique, tiens. C'est-à-dire... Quelle est la valeur du fait pour le Canadien qu'au-delà du succès de Suzuki, de pouvoir prouver que Laval a produit un joueur cette année, si Evans montre qu'il est de calibre en haut? Est-ce que ça a une valeur pour eux, puis est-ce que ça expliquerait la décision ça, pendant que Poehling et Kotkaniemi continuent de
développer. Valeur, ça a une valeur, mais je pense pas que ça aiderait à masquer justement les reculs peut-être que d'autres joueurs ont vécu. Mais ça a une valeur en soi.
Ça a une valeur en soi. Ça. Quand on dit qu'il n'y a rien là-bas, ben Jack Evans est monté cette année. Je sais pas. Je pose la question.
Peut-être. S'il veut essayer
ça, s'accroche à ça.
Demain, c'est consolation, mais les relations publiques, c'est important pour eux autres. Tu sais, là, les campagnes, on s'est bien amusé avec les campagnes de McDo puis de la ZKMD, là. Mais ça, c'est autorisé par une direction qui veut vendre son DG qui a des problèmes de communication dans un format où, idéalement, il paraît bien, sauf que le fait que l'équipe perde, ben là, on a mis fin aux campagnes publicitaires. Mais on avait donc dans tête comme organisation de continuer de nous le vendre, Marc Bergevin. Non?
C'est sûr que ça s'ajoute à la gestion de l'image, ça, c'est sûr.
Je ne sais pas. Fait que l'image est bien importante chez les Canadiens.
Il y a quelqu'un au journal qui l'a approché pour faire une belle entrevue sur sa personne. Puis
il a refusé. Je sens que tu vas nous parler de ta blonde. Toi,
écoute, je peux juste te dire qu'ils vont faire deux belles pages dans le milieu du journal sur lui puis sa personne puis tout ça. Puis pas parler de hockey du tout. Ils ont refusé.
Ça payait combien? Parce que la ZKMD et le McDo, eux autres.
OK, on vient de comprendre.
Merci, les gars. Simon-Olivier Laurence. Merci Simon-Olivier. Guillaume Lefrançois. Jérémy Filosa. Merci, Sébastien, à la mise en onde. Ouf, c'était épuisant, cette affaire-là. À bientôt, vendredi. Next time. Ciao.